travailleuses, travailleurs, camarades et amis. Deux plans de rigueur en 4 mois. Sous couvert de sommet social, un plan d'attaque en règle contre les travailleurs. Le gouvernement Sarkozy-Fillon aura tout essayé pour conserver la note triple A de la France. Eh bien, c'est en vain. En vain, puisque ce soir, l'agence de notation Standard & Poor's devrait annoncer la dégradation de la note de la France. Preuve, s'il en fallait encore, que les dirigeants et Sarkozy en tête n'ont aucune prise sur l'économie. Ils sont impuissants et désarmés devant les marchés financiers et devant la spéculation. Il n'y a pas que le gouvernement grec, italien ou espagnol qui se fait dicter sa politique. Le gouvernement français est comme les autres, soumis au diktat des marchés financiers et des possédants de capitaux. Et il obtempère, comme les autres. En septembre 2008, dans son premier discours de Toulon, Sarkozy avait déclaré qu'il allait refonder le capitalisme, le moraliser et remettre les marchés financiers à leur place. Au même moment, Obama faisait de vibrants discours contre l'irresponsabilité des banquiers. Mais quel est l'État qui a traduit en justice et fait condamner les banquiers coupables? Quels sont ceux qui ont été condamnés pour le crime d'avoir affamé des centaines de milliers de femmes, d'enfants, d'hommes, après avoir spéculé sur le cours du blé ou du riz? Y en a-t-il qui ont été accusés d'avoir placé des emprunts toxiques et mis en faillite des milliers de collectivités locales? Quels sont les PDG de grands groupes poursuivis pour avoir fourni de l'argent à la spéculation? Aucun. Au lieu de cela, les mêmes banquiers spéculateurs ont été inondés de milliards d'argent public. Tous les États leur ont fait des chèques en blanc. Et ironie de l'histoire, avec l'aggravation des dettes publiques, les dirigeants, ces mêmes dirigeants, ont ouvert un champ nouveau à la spéculation, la dette des États. Et les banquiers s'en donnent aujourd'hui à cœur joie. On peut dire d'ailleurs que Noël a été très bon pour les banquiers, pour les banquiers européens en particulier, puisque la Banque Centrale Européenne leur a ouvert du crédit illimité au taux de 1% sur 3 ans. Et ils n'ont pas mégoté, ils se sont servis. Ils se sont servis pour 500 milliards d'euros. Avec cet argent qu'ils ont obtenu pour rien, ils vont pouvoir reprêter à l'État français. Mais ils ne le feront pas à 1%. Ils vont reprêter à 3,2, 3,5, 4% peut-être, si la note de la France est dégradée ce soir. C'est déjà près de 50 milliards qui sont versés chaque année aux intérêts, en intérêts aux banquiers. 50 milliards, plus que ce qui est dépensé pour scolariser 12 millions de jeunes dans le pays. Et il va falloir payer encore plus cher sous prétexte que la note française est dégradée. Eh bien non, il est hors de question de payer pour ces messieurs les banquiers et les spéculateurs. Les travailleurs doivent rejeter tout appel au sacrifice de ceux qui dirigent la société et qui la dirigent si mal. Supprimer le capitalisme, on ne peut pas se débarrasser de la spéculation. La course effrénée des banques au profit et la spéculation sont dans les gènes même du capitalisme. Et on ne les arrêtera que si cela devient l'objectif du mouvement ouvrier, quand il retrouvera la combativité et la conscience qu'il faut combattre ce système capitaliste. Et si l'on veut un système bancaire qui fonctionne pour les intérêts de la population, eh bien il faut exproprier les banquiers sans indemnité ni rachat, fusionner les banques en un seul établissement de crédit et le faire fonctionner sous le contrôle et au service de la population. Le gouvernement Sarkozy-Fillon fait depuis longtemps, très longtemps en fait, un chantage en prétendant qu'il est du devoir de chaque citoyen de contribuer au remboursement de la dette. Que si nous ne faisons pas l'effort aujourd'hui, il reviendra à nos enfants, à nos petits-enfants, voire nos arrière-petits-enfants de le faire. Et bien avec la dégradation de la note de la France, ce chantage va se renforcer. Mais pendant ces 3 années et demie de crise, le gouvernement a contracté 500 milliards de dettes supplémentaires. Où est passé cet argent? Ces 500 milliards, ils ont bien atterri quelque part. Ils ont bien servi à quelque chose. Qui est-ce qui en a profité? Aucun travailleur n'a vu la couleur de cet argent. La dette a explosé pendant ces 3 années de crise. Parce que l'État a fait de l'assistanat en grand pour les banquiers, pour les industriels. Les grandes entreprises ont toutes été aidées à coups de milliards. Les dividendes des actionnaires ont été garantis par les subventions diverses et variées de l'État. Et puis les plus fortunés, vous vous souvenez, ont été protégés par le bouclier fiscal. Alors voilà où sont passés les milliards que le gouvernement Sarkozy-Fillon veut faire payer aujourd'hui à toute la population. Oh, les travailleurs, ils en ont des dettes. Qui parmi nous n'a pas eu à s'endetter pour acheter une voiture ou acheter un logement? Et il faut même parfois s'endetter pour se soigner. Et nous, nous sommes bien obligés de rembourser. Ça nous arrive aussi parfois d'aider un membre de sa famille à payer ses dettes, d'aider un de ses voisins. Mais pourquoi devrait-on payer pour la dette du patronat? Pourquoi devrait-on payer pour la dette des capitalistes? Alors, quand bien même on nous ressort cette dette de l'État à toutes les sauces, les travailleurs n'en sont pas redevables. Cette dette, c'est la dette de la bourgeoisie, et bien c'est à elle de la payer. Le gouvernement Sarkozy-Fillon a prétendu sauver les retraites en les démolissant. Il prétend garantir le système de santé en déremboursant les médicaments et en augmentant les franchises médicales. Et quand il rackette la population pour inonder les banquiers et les industriels de 2 milliards, c'est encore pour notre bien à nous tous. Et voilà pour quelques jours, le gouvernement organise un sommet social qui est en réalité un véritable plan d'attaque contre les travailleurs. Il y sera question de faire travailler les salariés plus longtemps et il y sera question de baisser les salaires. Baisser les salaires, voilà la dernière mesure sociale que le gouvernement a inventée et qu'il veut imposer sous couvert de TVA sociale. Le nom même de TVA sociale est une escroquerie grossière. La TVA est l'impôt le plus injuste qui soit. Il fait payer au même tarif le smicard ou le chômeur et le milliardaire. Et c'est avec cet impôt injuste que l'État remplit déjà près de la moitié de ses caisses. Et il rapporte quasiment 3 fois plus que l'impôt sur les bénéfices des sociétés. En octobre dernier, lors d'un de ses multiples shows télévisés, Sarkozy avait déclaré avec des trémolos dans la voix qu'il était contre une hausse généralisée de la TVA. Vous vous en souvenez peut-être. À l'époque, il avait décidé de jouer avec les mots. Pas de hausse généralisée, mais hausse partielle de la TVA. Hausse de la TVA de 5,5% à 7%, que l'on paye d'ailleurs tous depuis le 1er janvier, sur la restauration, sur les travaux, sur le transport, sur les médicaments non remboursés. Et emporté dans son élan démagogique, Sarkozy s'était même payé le culot de dire qu'une augmentation généralisée de la TVA serait injuste. Eh bien, il va falloir lui rafraîchir la mémoire. Le gouvernement Sarkozy-Fillon envisage, avec cette TVA, de transférer sur cette TVA une partie des cotisations patronales. Cela fera baisser le coût du travail, avance-t-il, comme si c'était forcément une bonne chose pour tout le monde. Mais vu du côté des travailleurs, baisser le coût du travail, c'est baisser les salaires. Parce que les cotisations sociales, eh bien, elles font partie intégrante du salaire. C'est du salaire différé sur lequel le travailleur peut compter quand il est à la retraite, quand il est malade ou quand il est jeté au chômage. Si l'on transfère ces cotisations sur la TVA, cela revient à demander aux travailleurs d'abandonner une partie de leur salaire. Le gouvernement, qui se fait en la matière la voix du patronat, la voix de son maître, nous explique depuis 15 jours tous les bienfaits de cette nouvelle TVA qui est censée donner plus de compétitivité, moins d'importations et donc plus d'emplois. Au point que certains ont surnommé cette TVA la TVA anti-délocalisation. Et on voit tous les ministres se relayer pour nous démontrer par A plus B que ça marche. Mais plus ils donnent de chiffres, plus ils baratinent. Ils ont tous rabâché que sur 100 euros versés aux salariés, le patron paye 50 euros de charges en France. Mais c'est vrai pour combien de salariés ? Les patrons ont droit à des exonérations sur tous les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Alors sur combien de salaires les patrons payent-ils des charges complètes ? Et combien de contrats d'apprentissage sont signés justement pour ne pas avoir payé de charges ? Quant à dire que cela rendra plus compétitifs les produits français face aux importations chinoises et que cela pourrait conduire à des relocalisations, c'est ridicule. Alors tout cela, c'est du baratin. Le gouvernement nous présente cette mesure comme la mesure qui va tout révolutionner. Mais il se moque du monde. Cela fait 30 ans que les exonérations de charges se multiplient, au point qu'elles atteignent aujourd'hui 30 milliards d'euros par an. Et il n'y a jamais eu autant de chômeurs. Si cette mesure passe, le patronat se mettra la différence dans la poche, comme les restaurateurs ont profité de la baisse de la TVA sur la restauration pour arrondir leurs marges. Et les mêmes qui nous expliquent qu'il y a un problème de compétitivité et que les salaires sont trop élevés ne se plaignent jamais des millions de dividendes qu'ils versent aux actionnaires. Ce sont les premiers à justifier les millions qu'ils reversent aux banquiers. Les premiers à justifier les salaires extravagants des PDG, leur retraite chapeau, leur stock option. Il ne leur vient jamais à l'esprit qu'ils pourraient gagner en compétitivité, comme ils disent, en rognant sur les marges bénéficiaires, en diminuant les profits et les dividendes versés. Eh bien, c'est une mesure qu'il va falloir leur imposer. Parce que dans la société, ce ne sont pas les travailleurs qui coûtent cher. Ce sont tous ces parasites qui ne font rien de leurs 10 doigts, mais qui prélèvent une part de plus en plus importante de la richesse créée. Dans ce fameux sommet social du 18 janvier, pour avoir l'air de se pencher un peu sur le problème du chômage, le gouvernement compte parler de formation, comme si c'était le problème. Depuis le début de la crise, il y a 1 million de chômeurs de plus, 1 000 chômeurs supplémentaires chaque jour. Et le gouvernement va nous faire croire que c'est un problème de formation. Ils n'étaient pas bien formés, les centaines d'intérimaires qui se sont fait licencier chez Peugeot Citroën. Les anciens qui ont été poussés dehors par milliers dans tous les grands groupes industriels, ils manquaient de formation. S'ils n'étaient pas bien formés, les travailleurs de Continental à Clairvoy, dans l'Oise, ceux de Fralib à Gymnos, près de Marseille, et les travailleurs de Cifrance à Calais, et les travailleurs de Petroplus à Petit Couronne, près de Rouen, cela, c'est de la blague. Et c'est surtout une façon de culpabiliser les chômeurs. Avec ce gouvernement, le problème du chômage devient un problème individuel. On est chômeur parce qu'on n'a pas réussi ses études, parce qu'on a mal choisi sa filière, parce qu'on n'est pas assez mobile, parce qu'on n'est pas ci, parce qu'on n'est pas ça. Mais non, le chômage est un fléau social, un produit de la rapacité patronale, un produit de l'exploitation. Pour les patrons, les travailleurs, qu'ils soient ouvriers, cadres ou même ingénieurs, ne sont que des facteurs de production, comme des machines ou des pièces de rechange qu'ils peuvent mettre au rebut quand ils n'en ont plus besoin. Et le chômage est une menace qui pèse sur l'ensemble des travailleurs. Qui, aujourd'hui, peut se sentir à l'abri du chômage ? Même plus les fonctionnaires, puisque l'État peut licencier tout fonctionnaire qui refuse 3 reclassements. Alors oui, le chômage pèse, et il pèse sur tous. Il pèse aussi sur le moral. Il pèse sur le rapport de force entre patrons et travailleurs, parce que les patrons font du chantage au chômage pour aggraver les conditions de travail, pour imposer des rythmes de travail de plus en plus déments des chaînes de production aux caisses de supermarché. Et le chômage pèse, tout le monde le sait, d'une multitude de façons sur l'ensemble de la vie sociale. Il pèse sur les jeunes, obligés de galérer, parfois pendant des années, avant de trouver un emploi stable. Il pèse sur la vie sociale, dans les quartiers pauvres. Et il est à la base de cette insécurité dont on nous rebat les oreilles, comme si c'était un problème indépendant du reste, comme si ce n'était pas la conséquence directe de l'appauvrissement général. Le chômage, c'est une des raisons essentielles de la désagrégation de la vie sociale. Il pèse sur la solidarité entre travailleurs. Un ouvrier, un employé qui se retrouve au chômage, et surtout s'il y reste longtemps, comme c'est de plus en plus le cas, a le sentiment d'être seul face à son malheur. Eh bien, nous avons à dire et à répéter que ce n'est pas un malheur individuel et que le chômage n'est sûrement pas de la responsabilité du chômeur lui-même. Le gouvernement ne veut rien faire contre les patrons licencieurs. Pire même, loin de pouvoir combattre le chômage, le gouvernement en rajoute. Car depuis 5 ans, le gouvernement est le plus grand licencieur du pays. Il se vante même d'avoir supprimé 150 000 postes dans la fonction publique, des personnels de l'éducation, des personnels hospitaliers. Aucun gouvernement, ni celui que nous subissons depuis 5 ans, ni aucun autre, ne combattra le chômage. Car il faut pour cela combattre le responsable. Le patronat licencieur qui, pour augmenter ses profits, s'efforce en permanence de faire produire toujours plus avec toujours moins de monde. Il faut combattre l'économie capitaliste elle-même et son fonctionnement aberrant basé sur l'exploitation qui écarte de la production des millions de femmes et d'hommes qui sont condamnés à l'inactivité alors qu'il y a tant de besoins élémentaires qui ne sont pas satisfaits. Le chômage doit devenir l'objet de notre combat commun. Qu'on soit en activité, à la retraite ou au chômage, le chômage est un problème. C'est notre problème à tous et c'est collectivement, au travers de nos luttes, que nous pourrons le combattre. Je voudrais revenir sur une proposition du gouvernement, taxer les transactions financières. Que Sarkozy évoque cette mesure à 100 jours de l'élection présidentielle, alors que pendant ses 5 ans de présidence, il en a été l'adversaire, en dit long sur sa sincérité. Mais quand bien même Sarkozy aurait vraiment l'intention et les moyens de créer cette taxe, qu'est-ce que cela changerait ? La taxe Tobin est un prélèvement ridiculement bas, ayant pour prétention de régler un peu la finance tout en ne faisant pas de mal aux financiers. Et aujourd'hui, le gouvernement hésite sur le nombre de zéros à mettre derrière la virgule. Pour ne pas être trop douloureuse aux riches, faut-il une taxe de 0,5%, de 0,05%, voire, comme le proposait Kouchner en 2009, de 0,005%. Eh bien, leur lâcheté devant les puissants est écœurante. Tous ces dirigeants ne font pas autant de manières quand il s'agit d'augmenter la TVA, le gaz, le train, la CSG ou les sodas. En achetant notre baguette de pain, on paye 5,5% de TVA. En achetant notre sandwich, on paye 7% de TVA. Et sur tout le reste de nos transactions à nous, nous payons 19,6% de TVA. Et on ne demanderait à ces messieurs les spéculateurs de ne payer que 0,quelque chose sur des transactions qui leur rapportent des millions et qui en plus nuisent à toute la société. De vernis social, ce sommet qui est entièrement dédié au patronat. Dans cette crise, des dizaines de milliers d'ouvriers, d'employés, de magasiniers, de chauffeurs routiers, d'intérimaires ont été licenciés et ont perdu le salaire qu'ils faisaient vivre. Et combien parmi eux ont épuisé leur droit au chômage ? Et sont tombés dans les minima sociaux qui permettent tout juste de survivre. Même pour ceux qui ont un salaire et un emploi à temps complet, la vie devient de plus en plus difficile. Parce que tout augmente. Le loyer, le gaz, l'électricité, les mutuelles, les assurances, le carburant, tout augmente. Le gaz a augmenté de 60% depuis 2005. Et le gouvernement ose se féliciter parce qu'en ce début d'année, il n'augmente que de 4,5%. Mais qui, parmi nous, a vu son salaire, sa pension ou ses allocations augmenter de 4,5%? Les salaires ne suivent même pas l'augmentation des produits alimentaires. Alors quoi d'étonnant à ce que le Secours populaire ou les restaurants du cœur se remplissent, y compris de travailleurs? C'est la crise, nous dit-on. Oui. Mais ce n'est pas une fatalité que ce soit les travailleurs et les plus pauvres qui la payent. Dans cette crise, tout le monde ne s'en sort pas de la même façon. Pendant que le chômage explosait sur les 5 dernières années, les dividendes des actionnaires du CAC 40 ont augmenté de 31%. Pendant que les salaires stagnaient et que le pouvoir d'achat dégringolait, la rémunération des grands patrons, elle, a augmenté de 34%. Pendant toute la durée de la crise, les dividendes des actionnaires ont été préservés, ils ont été garantis. Et en 2012, les actionnaires du CAC 40 toucheront 37 milliards de dividendes au titre de l'année 2011. Cela, ce n'est pas la crise qui l'explique, c'est la lutte de classe. Confrontés à cette crise, les capitalistes compensent leurs pertes ou le ralentissement de leurs affaires en aggravant l'exploitation. Ils augmentent les cadences, réduisent la masse salariale, ils licencient. Tous les grands groupes procèdent de la même façon. Et même s'ils font de l'argent, et beaucoup d'argent. Jean-Pierre a parlé du groupe PSA, mais on peut parler aussi d'Areva, qui a réalisé 5,5 milliards de bénéfices sur les 9 dernières années et qui a prévu de ne pas remplacer les départs à la retraite, ce qui se solderait par une perte de 1200 emplois. On peut parler du géant de l'acier, ArcelorMittal. On peut citer toutes les banques, de la BNP Paribas à la Société Générale, en passant par le Crédit Agricole. Elles ont toutes annoncé des suppressions d'emplois, alors qu'elles finiront toutes l'année avec des bénéfices dépassant les 2 milliards d'euros. Et il y a tous ceux qui, sans faire la une de l'actualité, poussent vers la sortie des travailleurs ou suppriment en permanence des emplois, tout simplement en n'embauchant pas pour remplacer un départ à la retraite. En pleine crise, en sachant pertinemment qu'aujourd'hui la route du chômage mène directement à la misère, ces grands groupes sont prêts à fabriquer des milliers de chômeurs supplémentaires. Et il ne faut pas non plus oublier toutes les entreprises autour, les entreprises petites et moyennes, de 100, 200, 300 salariés qui sont sous-traitantes. Il ne faut pas oublier les entreprises de nettoyage, de sécurité, de restauration, qui acceptent les conditions drastiques des grands groupes, parce qu'ils savent qu'au bout du bout, il y a toujours les travailleurs, les ouvriers que l'on peut écraser. Alors, oui, le patronat mène la lutte de classe. Il la mène de façon résolue. Eh bien, il faut que nous, de notre côté, les travailleurs, nous menions la nôtre. Depuis plusieurs semaines, on parle beaucoup du « made in France ». Il faudrait produire et consommer français et revenir au protectionnisme. Tout cela au nom de l'emploi, bien sûr. Mais les mêmes qui plaident le « made in France » au nom de l'emploi ne trouvent rien à redire aux suppressions d'emplois. Ils n'ont rien contre les licenciements. Ils ne s'opposent jamais aux fermetures d'entreprises. Mais c'est par là qu'il faudrait commencer. S'ils se copient tous, les uns les autres, de l'extrême droite à la gauche, c'est que ni les uns ni les autres ne veulent remettre en cause le système économique capitaliste, sa course échevelée au profit privé. Alors ils nous baladent avec une démagogie nationaliste stupide. Chacun pousse son petit cocorico, de Marine Le Pen à Montebourg, en passant par Bayrou et Sarkozy, et il ne faut pas non plus oublier Hollande et son patriotisme industriel. Mais c'est stupide. Tout ce qui est produit, chaque objet fabriqué, l'est avec des capitaux, avec des capitaux aussi, des matériaux, des technologies et des pièces qui viennent des quatre coins du monde. Il n'y a plus de produits industriels français. Allez voir, par curiosité, dans votre boulangerie préférée, comment la baguette bien française est fabriquée. Allez voir d'où vient le four, où est fabriqué l'inox du pétrin. Alors tous ces discours protectionnistes sont ridicules. Mais ils font partie du concert de mensonges pour nous faire oublier les responsables de la crise, les banquiers, les spéculateurs de tout poil et les industriels qui font peser sur les travailleurs tout le poids de la crise. S'il s'agit de dénoncer les capitalistes qui ferment des entreprises pour en ouvrir ou pas d'ailleurs dans un autre pays ou dans une autre région, pourquoi ne pas dénoncer les responsables directs? Les licencieurs, les capitalistes eux-mêmes qui suppriment des emplois pour accroître leurs profits. Pourquoi montrer du doigt les travailleurs à l'autre bout du monde qui sont nos frères? Ce n'est pas des travailleurs chinois, indiens ou autres dont il faut se protéger, mais c'est des capitalistes, c'est de leur rapacité et c'est de leur diktat. La concurrence. La concurrence internationale, dont il faudrait se protéger, est organisée par nos propres capitalistes. Donc cette concurrence internationale est organisée par nos propres capitalistes, qui sont les premiers profiteurs de l'exploitation à l'échelle mondiale. Et on retrouve d'ailleurs les mêmes multinationales d'un bout à l'autre de la planète. Alors, dire ou faire entendre que la démondialisation est possible et souhaitable est une stupidité. Tout est mondialisé. Le savoir, les techniques, les capitaux, les idées, la production est mondialisée. Les moyens de communication et les moyens de transport sont plus développés que jamais. La planète est devenu un village. Et c'est heureux, parce que nous sommes une seule et même humanité habitant sur la même terre. Bravo. Karl Marx avait compris, dès les années 1840, alors que la mondialisation n'en était qu'à ses débuts, que l'humanité allait être fondue dans un sort commun et que plus aucun problème ne pourrait trouver de solution à l'échelle nationale. À sa suite, nous pensons que les travailleurs du monde entier ont les mêmes patrons à combattre et les mêmes chaînes à arracher. Et nous sommes convaincus que l'économie débarrassée du capitalisme sera organisée à l'échelle du monde, qu'elle sera basée sur la mondialisation, c'est-à-dire sur la mise en commun de ce qu'il y a de meilleur à l'échelle de toute la planète. Qui était il y a peu le terrain de prédilection de l'extrême droite. Et bien que ces idées soient aussi véhiculées à gauche, ne change rien au fait que c'est un poison pour les exploiter. Dans cette période de crise, il n'est d'ailleurs pas impossible que les États capitalistes en viennent eux-mêmes à remettre en cause les accords commerciaux ou financiers internationaux. Nous allons peut-être vivre une phase de remontée du protectionnisme. Mais souvenons-nous, la dernière fois que les grandes puissances ont opéré ce genre de repli protectionniste, ce genre de repli nationaliste, c'était à la suite de la crise des années 1930 et cela a mené à la Seconde Guerre mondiale. Personne ne peut dire où nous mènera la crise actuelle du capitalisme. Mais ce qui est certain, c'est que pour la classe ouvrière, il n'y aura d'issue qu'à travers des luttes pour défendre ses intérêts propres et qu'à travers la conscience d'être à l'échelle du monde une seule et même classe exploitée. Le sort des travailleurs dépend de la lutte de classe, du rapport de force entre les travailleurs et le patronat. Et ce n'est pas l'élection présidentielle de 2012 dont on nous parle du matin au soir qui changera cela. Tous les gouvernements qui se sont succédés, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ont toujours laissé les patrons faire ce qu'ils voulaient quand ils ne prenaient pas fait et cause pour eux. Y compris les gouvernements de gauche, ceux de Mitterrand et de Jospin, et même quand ils avaient fait des promesses aux travailleurs. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous ne sommes pas embarrassés par les promesses du candidat du Parti Socialiste. Et les travailleurs ont peu de risques de se sentir trahis par Hollande, le nouveau champion du Parti Socialiste, puisqu'il ne s'est engagé à rien vis-à-vis d'eux. Il ne s'est pas engagé à faire quoi que ce soit contre la dégringolade du niveau de vie des couches populaires. Il n'a rien refusé aux fermetures d'usines, aux licenciements. Sur les retraites, il avait bien promis de ramener l'âge légal à 60 ans. Mais on vient de comprendre que cela ne concernerait que ceux qui ont travaillé et cotisé 42 annuités, ce qui ne concernera que ceux ayant commencé à travailler très tôt et encore sans avoir connu une période de chômage. Autant dire que c'est une espèce qui va se faire de plus en plus rare. Sur les 60 000 postes supplémentaires dans l'éducation nationale au bout de 5 ans, eh bien, il est de plus en plus clair qu'ils seront pris sur d'autres postes de la fonction publique, ce qui s'appelle déshabiller Pierre pour habiller Paul. Quant à la dernière polémique autour du quotient familial, c'est à se demander qui de Sarkozy ou de Hollande a été le plus ridicule. Sarkozy, qui a hurlé à la mort de la politique familiale française, lorsque les petits avantages des familles les plus riches risquaient d'être écornés, ou Hollande, qui a semblé si effrayé par sa propre audace qu'il s'est empressé de s'excuser. La seule chose qui semble certaine du côté de François Hollande, c'est qu'il fera une politique de rigueur. Hollande nous promet une politique de rigueur plus juste. Mais quel que soit l'enrobage, quand les dirigeants politiques parlent de rigueur, ce sont sont toujours, toujours les classes populaires qui finissent par payer. Alors nous sommes prévenus. Si Hollande est élu, les sacrifices continueront. Les coûts, au lieu de venir de la droite, eh bien, ils viendront de la gauche. Alors, si les travailleurs ont toutes les raisons d'exécrer Sarkozy, ils n'en ont aucune, vraiment aucune, de faire confiance en François Hollande.
Répartir le travail entre tous
de façon qu'il assure l'emploi et le salaire de chacun. Il faut forcer le patronat à prendre sur ses profits pour garantir l'emploi, même dans cette période de crise. On pourrait en profiter pour diminuer alors les cadences de travail, rajouter des temps de pause, diminuer les horaires de chacun. On pourrait créer des postes dans les hôpitaux, dans les écoles, dans les bureaux de poste. Au lieu de fermer des usines, des bureaux ou des services, et de concentrer le travail sur ceux qui restent, il faut répartir le travail entre tous. On ne peut pas accepter que ceux qui ont un travail roulent sous la charge, alors que de plus en plus de bras sont condamnés à l'inactivité et au chômage. Il faut forcer le patronat à garder tous les salariés et à embaucher. Bien sûr, cela coûtera de l'argent. Mais les exploiteurs ont l'argent pour cela. Et c'est précisément parce que cet argent est détourné vers les opérations financières que la société crève aujourd'hui. Alors cet argent, eh bien, il serait 1000 fois mieux utilisé à des embauches et au paiement des salaires. L'augmentation des salaires et des pensions de retraite, et avoir l'objectif d'imposer qu'ils soient indexés sur les prix. Et sur les prix que nous mesurerons nous-mêmes, par en bas, au jour le jour, et pas sur l'inflation officiellement mesurée, qui sous-estime l'augmentation des prix pour les classes populaires. Et nous continuerons de défendre un troisième objectif, plus général, qui est la condition même de tous les autres, qui est d'imposer le contrôle des travailleurs et de la population sur les comptes des entreprises et des banques. Parce que les capitalistes nous expliqueront qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont forcés de licencier, qu'ils ne peuvent pas embaucher, que tout cela n'est pas possible parce qu'il y a la concurrence internationale et que cela les ruinerait. Alors il faut que les travailleurs puissent tout connaître de l'argent qu'il y a dans les entreprises, à quoi il sert, combien va aux travailleurs, combien va aux actionnaires, combien est versé aux banques, quelle marge est faite avec tel ou tel client, quelles conditions est faite aux sous-traitants. Et pour cela, eh bien, il faut supprimer le secret des affaires et permettre aux travailleurs de dire ce qu'ils savent, tout ce qu'ils savent de ce qui se passe dans l'entreprise. Les groupes capitalistes, les banquiers sont trop irresponsables à l'égard de la société. Ils se préoccupent exclusivement de leurs profits privés. Ils l'ont montré tout au long de cette crise. Et on le voit avec les scandales sanitaires qui se succèdent. Après le scandale du Mediator, il y a désormais le scandale des prothèses mammaires PIP. Sans parler de l'amiante qui tue 3000 personnes par an encore aujourd'hui. Tous ces scandales montrent que pour faire du fric, les capitalistes sont prêts à tout. Eh bien, il ne faut pas les laisser prendre leurs décisions dans le secret des conseils d'administration, sans le moindre contrôle, sans même la moindre transparence. Pour pouvoir les empêcher de faire leur sale coup en cachette, il faut lever le secret industriel et le secret bancaire. Un cadre, même s'il est au courant d'un projet contraire aux intérêts des travailleurs, de la société ou contraire même aux intérêts de l'environnement, a interdiction de le dévoiler. Voilà pourquoi bien des travailleurs sont les derniers avertis quand ils sont licenciés. Voilà pourquoi, quand une entreprise pollue, voire empoisonne la population, celle-ci ne l'apprend qu'une fois que le mal est fait. Eh bien, il faut changer cela et supprimer cet interdit. C'est l'intérêt des salariés, mais c'est aussi l'intérêt de bien d'autres catégories populaires, c'est l'intérêt de toute la société. Bien sûr, supprimer la loi qui punit actuellement tous ceux qui rendent publics les mauvais coups qui se cachent derrière le secret des affaires ne fera pas tout. Elle ne fera que créer les conditions légales d'un contrôle de la population. Mais pour que ce contrôle soit effectif, il faudra encore la volonté de la population de le prendre en main, de se mobiliser, de s'organiser pour ce contrôle. Mais la suppression du secret des affaires sera un premier pas qui, nous l'espérons, sera suivi de bien d'autres pour contester la dictature du capital. Voilà quels sont les objectifs vitaux pour le mouvement ouvrier. Nous ne le répéterons jamais assez, mais nous savons que ces objectifs ne peuvent être réalisés qu'au prix de luttes déterminées, massives et mobilisant même la grande majorité du monde du travail. Mais il n'y a pas d'autre issue. Et je me présente dans cette élection pour défendre cette politique, ce programme qui est un programme de lutte pour les travailleurs. Aucun autre candidat ne le met en avant, même ceux qui se targuent d'être plus radicaux, sont trop respectueux du marché, de la concurrence et de la propriété capitaliste. Alors, il n'y a aucune raison de laisser dans cette campagne électorale le monopole de la parole à tous ces dirigeants qui se disent de gauche, mais qui s'accommodent de cette société capitaliste qui est un ordre social injuste et une organisation économique stupide. L'avenir de l'humanité ne peut pas être le règne des profits, de l'exploitation, de la concurrence, des inégalités et des injustices. La société capitaliste est une maison de fous, où les crises sont déclenchées parce qu'il y a trop d'argent à un pôle de la société, parce qu'il y a trop de production par rapport à ce que la population peut acheter. Ce trop-plein de richesses, eh bien, il va dans la finance, dans la spéculation, et il finit par étouffer toute l'économie. Le capitalisme est une économie qui s'étouffe dans sa propre graisse. Nous n'avons jamais eu autant de moyens pour construire vite et bien. Mais il manque de plus en plus de logements pour les classes populaires. Plus on peut faire circuler des connaissances et le savoir, moins il y a d'éducation. Plus on a les moyens de soigner des maladies graves, et même de réussir des prouesses médicales, et moins les gens se soignent. Et puis on est capable de produire de la nourriture pour deux fois la population de la planète, mais des millions de femmes et d'hommes sont affamés aujourd'hui dans la Corne de l'Afrique. Alors pour changer tout cela, il faut une transformation profonde de la société qui ne peut se faire qu'en expropriant la bourgeoisie, qu'en réorganisant la production sur d'autres bases. Alors à tous ceux révoltés par le gâchis de cette société capitaliste, nous disons que l'avenir appartient aux travailleurs, à leur lutte et au communisme.
Parce que c'est de la société future dont je parle. La société où ils vivront. C'est peut-être aujourd'hui que se décide ce que sera la société dans 10, 20 ou 30 ans. Les années à venir dépendent de votre capacité à réagir, à nous défendre, à nous battre, à nous organiser aujourd'hui. La dernière crise, équivalente à celle que nous vivons, la crise de 1929, a entraîné des luttes puissantes de la classe ouvrière. Celle de 1936, en France et en Espagne. Mais toutes ces luttes, elles ont été défaites. Et la société capitaliste a alors montré qu'elle était capable de la pire réaction, de la pire barbarie avec la Seconde Guerre mondiale. L'histoire ne se répète jamais exactement de la même façon. Mais voilà jusqu'où la société capitaliste peut nous amener si nous ne sommes pas à la hauteur aujourd'hui. Et la jeunesse, qui a toujours été à la pointe des contestations, a un rôle clé à jouer dans cette riposte nécessaire. Alors à ces jeunes, eh bien je dis qu'il est possible de changer les choses à condition de se battre et de lier son sort au combat de la classe ouvrière. Qu'on soit jeune ou moins jeune, chacun a le choix de lutter pour un monde meilleur qui utilise les ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire les besoins de tous et pas seulement ceux d'une minorité rapace. Au lieu de l'individualisme de la société actuelle, il y a la solidarité, la force collective des travailleurs et de tous les exploités. Au repli nationaliste, voire xénophobe, il faut opposer l'internationalisme, c'est-à-dire la conviction que les travailleurs du monde entier ont les mêmes intérêts et que les frontières sont des barrières artificielles que l'on dresse entre les uns et les autres pour le plus grand profit des possédants. À tous ceux qui ne se résignent pas, nous disons qu'il y a un autre avenir, celui d'une société débarrassée des inégalités de classe et réorganisée sur des bases communistes.
Vous pouvez contribuer en participant à nos campagnes d'affiches
à l'organisation de nos réunions et de toutes les façons qui vous sembleront possibles. Alors, vous l'aurez compris, nous comptons sur vous tous qui êtes ici pour nous aider dans cette campagne. Si l'élection présidentielle peut contribuer à faire connaître ses idées plus largement et à les populariser, eh bien ce sera un pas considérable pour préparer la suite qui se déroulera là où tous les changements se décident, c'est-à-dire dans les entreprises, dans la rue, en tout cas dans les luttes.
Rendez-vous. D'abord, le meeting régional de Montreuil le 3 février à 20h30, où j'espère que nous nous retrouverons encore nombreux, plus nombreux. Et d'autre part, pour continuer justement à populariser ces idées, à défendre ce programme de lutte et à en discuter, à en débattre, je souhaiterais vous donner un autre rendez-vous le 27 janvier, ici même, pour tous ceux justement qui veulent discuter de ces idées. Donc ici même, à la Bourse du Travail. Donc, vous avez bien compris que nous comptons sur votre soutien, nous comptons sur votre aide pour justement défendre ce programme de lutte. Alors nous aider, vous avez la possibilité de laisser vos coordonnées à la table de presse, où vous trouverez aussi nos principales publications. Et d'autre part, nous aider, c'est aussi nous soutenir financièrement, puisque vous le savez tous, nous ne sommes financés que par les travailleurs. Donc voilà, à la sortie, vous trouverez des drapeaux rouges pour verser à la collecte et pour nous soutenir financièrement. Mais avant de nous séparer, nous allons chanter l'International.